Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Rodolphe Milia appartient à une génération qui s'est elle-même élevée dans la révolte et la rupture avec sa propre culture. Entre ses divers emplois, il se donne toute liberté pour voyager. Le zen et le bouddhisme tibétain le préparent à sa rencontre avec le yoga. Depuis son adolescence, il pratique intensément l'athlétisme et les arts martiaux. C'est donc naturellement par la voie la plus physique, celle du hatha yoga, qu'il va s'initier au yoga. Le monde culturel de l'Inde lui apparaît progressivement comme un ensemble de pensées et d'actions par lesquelles il se réalise. Dès lors, le yoga et la spiritualité prennent une place essentielle. J'ai rencontré Rodolphe lors d'un atelier sur le pranayama, un atelier sur le souffle et la respiration. Interpellé par la puissance du personnage, je lui ai proposé de partager avec nous un peu de son histoire et de son savoir. Bonjour, donc regarde ailleurs, c'est donner la parole à des gens que je rencontre en France ou à l'international sur cette dimension d'interculturalité, regarde ailleurs, tourner son regard sur les autres, tourner son regard sur soi et surtout partager des expériences de vie parce que j'ai cette croyance que des fois l'expérience d'une personne puisse servir à d'autres pour pouvoir cheminer, des fois une lecture peut être inspirante pour d'autres mais aussi une émission radio peut des fois éveiller, susciter l'intérêt en fonction de l'intervenant qui va prendre la parole. Donc aujourd'hui dans cette émission Regarde ailleurs, c'est Rodolphe Milia que je rencontre ici sur un festival autour du chant, du chant des bhajans, des kirtans et des mantras. Tu proposes différents ouvrages et je sais que tu interviens en tant que conférencier. Donc on va revenir peut-être vraiment longtemps en arrière. Reviens peut-être dans ton enfance et peut-être la place qu'a l'Inde. Présentation libre, Rodolphe.
Alors de toute façon, dans mon enfance, l'Inde n'a aucune place. Hein. Je découvre plutôt l'Extrême-Orient. À partir de 18 ans, par le zen, par les arts martiaux. Je suis un petit peu déçu aussi par les arts martiaux. Pourtant, je les pratique avec des maîtres japonais, tout droit issus du Japon. Et ils sont très intéressants, ils sont pleins de savoir. Mais pour ce qui concerne la spiritualité, non. Je recherche le zen dans les arts martiaux, je ne le trouve pas.
Mais là, tu as 18 ans, donc tu es déjà dans une forme de quête spirituelle aussi jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu expliques ça?
Ma quête métaphysique, elle a été même bien plus jeune encore. Vers les 10-11 ans, je m'intéressais déjà à des philosophes comme Heidegger, Hegel. J'y comprenais pas grand-chose, mais il y avait quelque chose qui me titillait de ce côté-là.
Est-ce que tu arriverais à expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que tu avais déjà cet attrait pour la philosophie et pour la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis par peut-être ton contexte social, culturel ou familial?
Non, j'avais un oncle qui était prêtre, mais le catholicisme a assez rapidement abandonné à l'adolescence. J'avais aussi le frère de mon beau-frère qui était un dominicain espagnol, qui était un homme... on s'entendait beaucoup, bah évidemment, c'était un adulte. Et c'est lui qui a commencé à m'initier à la philosophie, à répondre à des questionnements, à m'orienter. Quant à la spiritualité, ça a toujours été quelque chose, ça a toujours été un questionnement intérieur dès mon enfance. Mais ça ne s'est pas dirigé tout de suite vers l'Asie, encore moins vers l'Inde.
Tu parles de arts martiaux, de zen, donc voilà, comment est-ce que tu chemines, comment est-ce que tu as commencé ton cheminement spirituel, par quoi et comment est-ce que les arts martiaux sont venus à toi, pourquoi tu t'es lancé dans cette voie-là, ce qu'on appelle le do hein, au Japon, l'aïkido, le judo, cette notion du chemin.
Alors d'abord ça a été par les lectures des bouddhistes, des livres qu'on pouvait trouver à l'époque déjà, le livre des morts tibétains, le yoga tibétain. Ça m'intéressait. J'y comprenais pas non plus grand chose, mais ça m'intéressait. Et pour ce qui concerne le zen, j'aurais très bien pu fréquenter Taizen Deshimaru, il était encore vivant à cette époque-là, mais j'ai raté l'occasion. Et donc ma sortie de route en quelque sorte du Japon, ça a été lorsque j'ai cherché, je cherchais un club d'aïkido. À l'époque, j'étais pompier professionnel dans le Val d'Oise. Et je cherchais un club d'aïkido, pensant que ce serait peut-être mieux que le karaté, la castagne. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un cours de yoga tout à fait extraordinaire qui était fait par un jeune homme qui revenait de longs séjours en Inde. Et il avait un an de plus que moi, à peine, il avait mon âge. C'était un homme sculptural, tellement le yoga et puis ce qu'il avait fait peut-être auparavant en tant que sportif l'avait sculpté, l'avait travaillé. Moi, j'étais un sportif d'assez bon niveau. Je me suis dit, là, il y a du travail là. Donc je suis rentré dans le yoga par l'aspect physique et je dirais même presque sportif. Parce que lui, il enseignait la méthode Iyengar. Il revenait de deux longs séjours de chez Iyengar. Et donc cette approche très physique en quelque sorte, très technique, qui m'a permis d'entrer dans le yoga. Ça a été la porte pour moi la plus évidente, celle qui me correspondait le mieux à cet âge-là.
Tu avais quel âge à cet âge-là ?
23 ans.
Donc à ce moment-là, le yoga ne connaît pas encore l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui en Europe ou en France ?
Non, mais quand même, ça existait. Ça a commencé dans les années 70 avec un yoga même que je qualifierais d'assez traditionnel parfois, hein, qu'on pouvait trouver à Paris, même en province. Et celui qui cherchait, il trouvait facilement.
Donc le yoga, tu découvres ça à travers cet homme qui rentre d'Inde.
Qui est devenu un ami, évidemment. On est même parti en Inde la première fois ensemble pour aller pratiquer chez M. Iyengar à Pune. Et puis voilà, j'ai fait mon chemin. Pendant une huitaine d'années, j'ai pratiqué sous sa férule, je dirais. C'était pas un homme facile, monsieur Iyengar. Et là encore, j'étais un petit peu désillusionné par rapport à ma quête spirituelle. Bon, j'avais beaucoup progressé dans la technique du yoga, mais c'est pas ça que je cherchais vraiment profondément. Et puis à un moment, les choses sont venues par la boîte à lettres. J'ai reçu un dépliant avec la photo d'un homme mystérieux, avec des jatas comme un nid d'hirondelle, comme un nid de cigogne sur sa tête. Il s'appelait Sri 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 Sachidananda Yogi. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser derrière. J'ai senti qu'il y avait une autre forme de yoga. Alors c'était aussi une forme très 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 physique, très très dure, mais il n'y avait pas que ça. D'abord, c'était un silencieux. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Je l'ai fréquenté 20 ans, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Hein. Et puis, c'était un sage. Ça n'était pas un professeur de yoga. C'était un yogi. Un yogi célèbre en Inde qui vivait à Madras. À l'époque, Chennai, on appelait ça Madras. Pratiquement reclus, avec quelques disciples autour de lui qui lui avaient demandé, dans ses itinérances, de s'installer à Madras. Madras, ce n'était pas sa ville. Lui, il était un petit peu plus vers le nord, il était dans l'Andhra Pradesh, du côté de Vishakhapatnam. Et voilà, c'était un grand yogi, et tout de suite, il y a eu l'étincelle entre lui et moi, en quelque sorte. Je suis devenu une espèce de fils spirituel. Très vite, j'ai gravi, en quelque sorte, les échelons dans l'association Samgha, qui organisait sa venue en Europe, qui dispatchait ses voyages en Europe, et qui organisait aussi des séminaires de yoga. Alors, des séminaires très durs, hein. 10 heures par jour, 5 heures le matin à partir de 5 heures, 5 heures de nouveau l'après-midi. C'était vraiment un autre univers, en plus dans le silence, pratiquement dans le silence.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Rodolphe, est-ce que tu peux revenir sur ta quête ? Qu'est-ce que tu cherches ? Quelle est cette quête dont tu parles à plusieurs reprises depuis le début de cette émission ?
Alors, j'ai parlé là de ma quête il y a bien longtemps, il y a 50 ans et plus. Si j'envisage ma quête aujourd'hui, c'est plus vraiment une quête en quelque sorte. Pour moi, cette espèce d'illusion de la recherche, de devenir un yogi parfait, ça m'a quitté. Hein. Je suis davantage en recherche de devenir un humain, dans toutes ses dimensions. Alors peut-être que je peux y arriver aussi par le yoga, mais pas seulement. J'aime la littérature, j'aime la musique. Ma vie, c'est vrai, c'est le yoga en tant que pratique, mais je suis aussi un écrivain. Quand on a écrit 10-12 livres, on peut quand même se considérer un petit peu comme écrivain. Et depuis quelques décennies, ma vie devient de moins en moins sociale. Je me satisfais à moi-même en quelque sorte dans mes pratiques personnelles et dans mes écritures.
On va peut-être définir un peu les termes yogi, yoga.
Alors, déjà, on peut faire trois distinctions. L'élève de yoga, le shishya ou le disciple, ça, c'est la position la plus facile, la plus confortable, on va dire. Être élève, ouais. Parce que c'est l'apprentissage, parce que c'est toujours le renouvellement des connaissances, c'est le questionnement, mais on a un répondant en face de soi, on a un groupe aussi dans lequel on est supporté. Je vais traduire un célèbre verset qui est valable dans toutes les sciences occultes de l'Inde. Il s'agit de quatre pieds qui vont fonder en quelque sorte une assise. Le premier pied, c'est la rencontre avec le maître, c'est la connaissance du maître. Le deuxième, c'est sa propre intelligence, sa propre capacité à évoluer. Le troisième, très important, oublié souvent, c'est l'ensemble des disciples de la communauté dans laquelle on évolue spirituellement et dans son approche, dans sa recherche. Voilà. Enfin bref, c'est la communauté des élèves. Voilà. Et le quatrième pied, alors ça c'est très beau, c'est la marche du temps. Le temps nécessaire pour évoluer, chacun à son rythme, chacun dans ses aventures, dans ses déceptions, dans ses renouvellements.
Mais c'est vrai que on parle un petit peu de l'Inde, et ça c'est quelque chose de très culturellement ancré, hein, cette envie d'atteindre ou de sortir du cycle des réincarnations, donc de progrès, de progresser sur soi, de chercher un gourou, de chercher un maître. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu ou qui n'est pas du tout démocratisé dans nos cultures occidentales.
Oui, encore que... Bon, si on est fortement ancré dans la culture chrétienne, la réincarnation, la succession des vies, l'antériorité des vies par rapport à celle-ci, ça c'est très difficile à accepter pour un chrétien qui a foi dans le dogme chrétien. Mais aujourd'hui, avec la capacité à pouvoir s'informer, avec le nombre de bouddhistes qu'il y a par exemple, je crois qu'il y a au moins 2 millions de gens en France qui se définissent comme bouddhistes. Le nombre de gens qui pratiquent le yoga, c'est entre 7 et 10 millions en France maintenant. Ce sont les syndicats de professeurs de yoga ou les revues qui font des statistiques. C'est considérable. Donc cette idée de réincarnation, de karma, oui, c'est quelque chose de relativement commun maintenant dans l'esprit occidental.
C'est vrai qu'on a tous entendu le mot chakra, le mot karma, le mot yoga. Donc le yoga, c'est vrai que souvent on l'identifie à une pratique, à des postures, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le mot yoga. Est-ce qu'est pour toi le yoga ?
Au départ, le yoga, c'est une des 6 voies orthodoxes de la philosophie, issue des Védas. Orthodoxe parce que issue des Védas, parce qu'acceptant les Védas. Et puis, évidemment, ça a évolué au fil des temps. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une histoire du yoga, 35 siècles d'interaction de l'Antiquité jusqu'au monde contemporain ». Hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ce qui est aujourd'hui appelé yoga, c'est une espèce de gymnastique intéressante, peut-être bonne pour la santé aussi, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec les questionnements intérieurs, avec la rigueur du yoga médiéval, pour ne pas parler du yoga de l'Antiquité qu'on connaît très peu.
Tu parles des Védas aussi, tu peux nous définir ce que c'est que le Véda ?
Les Védas, sont les fondements scripturaires du védisme, donc qui est la première religion de ceux qui se définissaient en Inde du Nord comme les Aryens, castés comme Aryens, et qui ont donc diffusé leur représentation, leur mode sacrificiel, et leur texte aussi, et leur langue, le sanskrit.
Donc là, on est avant la naissance du Bouddha Gautama.
Oui, on est avant, oui. Bouddha Gautama, c'est une scission. C'est une non-acceptation des thèmes védiques et encore moins des sacrifices védiques. Donc le védisme, on va le situer, il a peut-être commencé, alors les historiens ne sont pas d'accord, hein, surtout entre indiens et occidentaux chercheurs. Disons qu'à partir du XVIIe siècle avant notre ère, voilà, on est sûr que là il y a déjà des traces du Rig Veda, le premier des Védas. Oh, pendant des années et des années, en fait, mon temps était relativement réduit pour voyager. Donc, quand je partais en Inde, c'était dans un but bien précis. J'allais voir quelqu'un, j'allais à un endroit précis et j'allais pas faire la route, en quelque sorte. Hein.
Et pourtant, tu t'es beaucoup intéressé à la culture indienne.
Oui, bah, j'ai eu le temps de m'y intéresser. Hein.
À quel moment tu t'es dit que tu allais commencer à transmettre, parce qu'à travers un livre, c'est aussi ça, c'est pouvoir transmettre un savoir, une connaissance.
Oui, mais j'ai enseigné très tôt le yoga. J'ai enseigné ce que je connaissais, en fait. J'enseignais principalement la technique des asanas, guère plus. Hein. Et puis avec Satchidananda, ma palette s'est largement ouverte, si bien que assez rapidement, j'ai commencé à enseigner le pranayama, la méditation, les mantras, oui, mais les mantras, c'est venu un petit peu plus tard. Il a fallu d'abord que j'apprenne le sanskrit pour être un peu plus sûr dans la transmission des mantras.
Et donc là, ben parle-moi de cette rencontre avec Satchidananda.
Alors oui, c'est intéressant. Ma première rencontre a été une rencontre physique. J'étais dans la même chambre que lui, dans la maison dans laquelle on résidait pour ce séminaire. Il était environ 5h moins le quart le matin. On sort en même temps tous les deux de notre chambre. Il faisait nuit noire. C'était fin août. Et donc ma première rencontre, ça a été une rencontre de poitrine. Je l'ai pris en pleine poitrine. Je me suis effacé, je l'ai laissé passer. On est allé dans la salle de méditation. On a médité, moi à l'époque je ne connaissais rien de la méditation. Voilà, méditation en silence. Et puis on commence le travail, son enseignement, toutes ces pratiques diverses. En une heure, j'ai compris que je connaissais absolument que dalle au yoga. Mais c'était une grande joie, une immense joie. Il y avait un continent qui venait de s'ouvrir là, tout ce que j'avais à apprendre.
Mais comment c'est possible, alors que tu es déjà enseignant et prof de yoga, qu'est-ce qui se passe en toi? Comment est-ce que tu découvres que tu ne connais rien?
Non, en fait, comme disent les Indiens pour se moquer de nous, j'étais asana teacher.
Bah, je veux bien qu'on développe un petit peu, parce qu'effectivement, pour nous, le yoga, c'est quand même beaucoup des postures.
Oui, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis le yoga, c'est un commerce aussi. C'est une, je ne dirais pas une industrie, mais quand même, c'est une façon de faire vivre... Les professeurs de yoga, ils sont des centaines de milliers, c'est incroyable. Il y a bientôt autant de professeurs de yoga que de pratiquants hein, en France, hein, compte tenu du nombre de formations, des formations très courtes, des formations un petit peu plus longues, mais toujours essentiellement orientées vers une pratique physique. Or, comme on dit en Inde, quelle que soit la discipline spirituelle qu'on étudie, c'est d'abord 12 ans. D'abord 12 ans. 12 ans plus tard, on peut commencer à se considérer comme ayant un petit peu d'expérience pour pouvoir la transmettre. Et pas seulement les asanas. Longtemps, j'ai enseigné les asanas parce que c'était la demande. Mais à partir des asanas, j'ai aussi proposé du pranayama, de la méditation, des mantras, que sais-je encore, des discussions philosophiques. Et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers du yoga et dans l'univers aussi de la culture indienne. Parce que le yoga est quand même très, très, très attaché à l'hindouisme. Il est aussi au bouddhisme, il est au jainisme, il est un petit peu au sikhisme aussi. Mais bon, quand même, on ne peut pas faire l'économie de la culture hindoue quand on s'intéresse au yoga.
Je reviens donc à ton maître Satchidananda, qui n'est plus de ce monde, hein, si j'ai bien compris.
Non, il est décédé dans l'année 2006, il avait 96 ans.
Et donc, toi, tu l'as accompagné en Inde à plusieurs reprises, ou quel est le lien entre le maître et l'élève?
Alors, pendant très longtemps, je l'ai beaucoup fréquenté en Europe, parce que j'ai très vite eu des responsabilités dans l'association Sangha. Donc, avec mes collègues, nous organisions des séminaires, nous organisions aussi ces déplacements et le planning de ces déplacements pendant 2 voire 3 mois. Et aussi, j'assistais à pas la plupart de ces séminaires, mais quand même beaucoup de séminaires en fonction de ma disponibilité professionnelle. Je traduisais, je l'aidais dans les démonstrations. Donc c'est surtout en Europe que je l'ai fréquenté. Il venait souvent chez moi. Soit il habitait chez moi, soit quand je me suis installé en Bretagne, il est venu plusieurs années pour animer aussi des séminaires. Et je suis allé le voir une seule fois en Inde. où là j'ai été reçu chez lui, mais pas nécessairement pour pratiquer le yoga, pour avoir des entretiens. Avec lui, les entretiens, c'était très long, parce que comme il ne parlait pas, donc il écrivait. Il écrivait en télougou, et sa fille adoptive, elle devait traduire du télougou à l'anglais.
Mais comment c'est possible? J'ai du mal à comprendre cette notion de ne pas parler et de venir en Europe faire des conférences.
Ah oui, mais son enseignement, c'était par l'exemple. Oui, faites ce que je fais. La pédagogie, elle était rudimentaire, mais c'était la plupart du temps des gens expérimentés qui venaient le voir. Donc, ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise de mettre le pied à gauche et le bras en l'air. Non, c'était lui, il était le premier dans les postures et dans les exercices et le dernier à en sortir.
Donc, c'est un enseignement d'asana, de posture.
Pas seulement. Il y avait aussi les mantras qui étaient récités par la fille adoptive qui l'accompagnait, qui était sa traductrice en quelque sorte, qui comprenait aussi ses gestes comme si c'était un langage. La méditation silencieuse, le pranayama, beaucoup de choses. Les kriyas aussi, toutes les préparations des lavements, ce qu'on appelle les purifications. C'était une sadhana intense et complète.
Voilà, donc là on a cité des mots, pranayama, kriya. On va s'intéresser au pranayama. Est-ce que tu peux nous, et mantra aussi, on parlait des mantras. On va commencer par le pranayama.
Alors, le pranayama est une, c'est le contrôle du souffle à des fins d'expérience... on va dire d'éveil, de modification des états de conscience aussi, et ça c'est très ancien. On voit déjà l'utilisation de la respiration chez les yogis dans l'Antiquité, dans la Haute Antiquité. Ils parlent déjà du prana, ils parlent de la maîtrise du souffle. À partir du Moyen-Âge, on commence à avoir des textes un petit peu plus précis sur les techniques de pranayama, qui font intégralement partie du Hatha Yoga. Pas seulement les asanas, mais aussi les purifications, ce qu'on appelle les Shatkarman ou les Kriyas. Ça aussi, ça fait intégralement partie du domaine du Hatha Yoga. Alors le pranayama, donc, c'est la science du souffle, des rétentions, de l'allongement du souffle, des techniques très particulières.
Ok, donc voilà pour le pranayama. Pour les mantras, est-ce que tu peux nous parler de la place des mantras?
Alors les mantras, oui, parce que c'est déjà plus oral. Donc si on remonte au premier mantra, ce sont des extraits des Védas, particulièrement du Rig Veda, le premier. On va trouver aussi beaucoup de mantras des Upanishads, qui sont eux d'une dimension plus métaphysique. On les appelle aussi les Shantipats, qu'on va trouver dans les Upanishads majeurs. Donc ce sont des extraits qu'on va retrouver dans divers Upanishads et qui sont considérés comme des paroles sacrées en cantillation, c'est-à-dire en une prononciation avec une scansion particulière. Tout ça c'est noté, c'est annoté depuis l'Antiquité. Donc on peut en fait cantiller, chanter les mantras exactement de la même manière qu'il y a 3000 ans. C'est quand même extraordinaire. C'est la seule culture dans le monde où on est capable de savoir comment on prononçait telle ou telle phrase et comment même on pouvait la chanter. Mais aujourd'hui, la plupart des mantras sont issus des Puranas, c'est-à-dire des textes anciens qui fondent l'hindouisme actuel, l'hindouisme classique, avec les dieux classiques. Dans l'Antiquité, les dieux du Védisme n'étaient pas les mêmes, à très peu d'exceptions près, que ceux qui sont aujourd'hui honorés en Inde. Et alors, précisément, les mantras modernes plus ou moins, donc s'adressent à ces différentes entités spirituelles, à ces différentes divinités, dans les différentes traditions spirituelles de l'hindouisme. Avec des descriptions très précises, un mantra, c'est performatif. C'est-à-dire, ce que je dis, je le deviens. C'est de la magie. Il y a un univers magique en Inde, pas seulement dans le mantra, mais dans plein de disciplines qui n'existent pas ou très peu en Occident. Par exemple, si je dis Om apavitraha pavitrova sarvavastham gatopiva yasmaret pundarikaksham sabahya bhyantara shuchihi. Qu'il soit pur ou impur, où qu'il aille, où qu'il se trouve, celui qui se souvient de... C'est Vishnu, en fait, Vishnu qui a aux yeux de lotus, alors il est pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Le fait de dire cela, c'est ça le performatif. Le fait de dire cela, c'est le devenir.
Comment ça marche?
Ça marche d'abord dans la croyance dans la tradition, c'est-à-dire qu'il y a un mantra, c'est une onde sonore vibratoire. On n'est pas obligé de comprendre un mantra. On va s'imprégner de sa vibration, de sa scansion, de son rythme. Et ça va déjà travailler les cellules de notre corps. Et puis très rapidement, on va être un petit peu plus curieux. On va se demander ce que ça veut bien dire. Et là, on va pouvoir détailler, si on a des connaissances en sanskrit, les finesses de chaque mantra, qui ne sont pas très très compliquées à comprendre. Ce n'est pas de la haute philosophie. Hein.
Tu disais le dire, c'est le devenir. Donc c'est un peu comme les pensées, finalement. On incarne ou on devient aussi ce que l'on pense.
Ah non, le dire, il faut le dire. Il faut que ça ait une... Il y a une implication physique d'abord, une vibration.
Mais sans le comprendre, cela peut déjà impacter sur nous, notre esprit ou notre corps.
Oui, oui. C'est une expérience qu'on peut faire. On dit en Inde que pour avoir fait l'expérience d'un mantra, il faut le faire 100 000 fois.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Rodolphe, donc j'entends que toi tu as enseigné le yoga une bonne partie de ta vie, mais pas que, ça n'a pas forcément été ton seul et unique activité professionnelle.
Ah non, j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles, effectivement. Ouais. Bon, j'ai fait beaucoup d'emplois, et puis ensuite, sur le tard... J'ai repris des études, je suis devenu éducateur spécialisé, psychothérapeute. Je me suis spécialisé dans l'aide aux adultes toxicomanes, en prison, sortant de prison, dans les postures. Ça a été une partie de ma carrière. Je gagnais bien ma vie, j'aimais bien ça. Et j'avais beaucoup de disponibilité. Je cherchais toujours des emplois où je faisais des longues gardes de 24 heures, ce qui faisait que j'avais beaucoup de disponibilité dans la semaine. Et puis, j'ai eu l'opportunité de prendre une partie des cours de yoga de mon professeur, dont j'ai déjà parlé, Sylvain Brunier. J'ai essayé pendant un an, mais ça ne m'a pas plu. Moi, je préfère la pratique du yoga plutôt qu'un enseignement intensif avec plusieurs heures de cours par jour, plusieurs déplacements, aller ici, aller là, dans une salle, puis dans une autre... Non, ça ne m'a pas plu, du coup je suis retourné, j'avais pris une année de disponibilité, je suis retourné dans ma profession. Et puis à un certain moment, vers les 37 ans, là j'ai vraiment décidé d'arrêter toute forme professionnelle, de construire un centre de yoga, un ashram, avec sous l'autorité du Swami Sachidananda Yogi, qui m'y encourageait et qui nous y a aidé.
Et quelle est la place pour toi du yoga encore aujourd'hui ?
Ah, elle est complète, ma pratique personnelle, l'univers de la recherche, de l'étude, des traductions, de l'écriture des livres, l'édition des livres, tout ça pour moi c'est mon yoga. J'enseigne de moins en moins, je vais même dire que j'enseignerai plus du tout à demeure, parce que j'ai la chance d'avoir ma fille aînée qui a repris toutes mes fonctions de coordinateur des formations de professeurs.
Rodolphe, donc je vais peut-être citer ton nom, Rodolphe Milliat, donc on trouve des infos sur tes bouquins, sur ce que tu es, sur ce que tu fais.
Ouais, on peut trouver ces références-là sur le site cefyto, cefyto.fr, cefyto.fr. Vous avez différents articles, puis vous avez aussi donc à disponibilité tous les livres que l'on a publiés, dont la plupart que j'ai moi-même écrits.
Rodolphe, merci.
C'est moi qui te remercie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.